Morgan N. Lucas est un psychopraticien, essayiste et formateur engagé dans ce qu'on appelle la déconstruction des normes de genre et la lutte contre ce qu'on appelle la domination masculine ou ce que certains disent aussi la masculinité toxique. Alors, j'ai rencontré Morgan Lucas lors de mon passage à Paris en juillet dernier et j'ai eu le privilège de faire une entrevue avec lui. Pour vous le présenter davantage, il a publié en 2024 un ouvrage intitulé « Ceci n'est pas un livre sur le genre », un ouvrage qui dénonce le sexisme et le patriarcat. Il y a un peu plus d'un an, lors du procès célèbre de la cause de Gisèle Pélicaud, qui a été victime de viol à répétition alors qu'elle était sous soumission chimique, droguée par son mari, il a publié un texte percutant dans Libération, intitulé « Feuille de route pour lutter contre la domination masculine ». C'est signé par plus de 200 hommes et dont plusieurs personnalités. On l'écoute donc nous décrire tout ça.
En fait, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu toutes ces discussions autour du procès Pélicaud, on a constaté sur Internet énormément d'hommes qui, malgré la gravité des faits, malgré les preuves, continuaient à dire, pas tous les hommes, continuaient à dire « Oui, mais alors ce sont eux les agresseurs, ce n'est pas moi. » Et ça m'a gonflé.
Ah
ça
oui.
m'a gonflé beaucoup. Ouais.
Pourquoi ?
Parce que je me suis dit, si c'est pas maintenant, avec la gravité, avec le retentissement de cette affaire-là, qu'on décide de prendre nos responsabilités collectivement, c'est quand, en fait ? À quelle gravité d'événement vous allez réagir et vous allez comprendre que vous faites partie du problème ? Et même ne serait-ce que tout remettre à soi, tout dire, non, moi ça me concerne pas, moi je suis pas un agresseur, prouve pleinement que vous faites partie du problème, donc il serait temps un peu de se réveiller, quoi.
Donc c'est vraiment la première étape, c'est de reconnaître qu'en tant qu'homme, nous avons une responsabilité, même si nous ne sommes pas des agresseurs de première ligne.
Bien sûr, nous bénéficions de fait de notre statut d'homme avec ses privilèges, et puisque le monde, la société, en tout cas dans laquelle on évolue, a été construite par et pour les hommes, c'est une société patriarcale. De ce fait, on bénéficie à la fois de privilèges, mais on bénéficie aussi de la domination de toutes les autres personnes qui ne sont pas des hommes. Et du coup, à partir de ce moment-là, même si on n'agresse pas, même si on ne violente pas, nos privilèges et notre position dans la société fait que on maintient un système qui est extrêmement oppressif pour beaucoup de monde.
Donc la première étape, ça serait non seulement d'en prendre conscience, mais de dénoncer cette violence.
Alors, déjà, la première étape, ce serait d'en prendre conscience.
Ouais.
Parce qu'il y a énormément d'hommes qui n'en ont pas conscience. Parce que, de fait, quand on... C'est un peu comme demander à un poisson de se rendre compte qu'il est dans l'eau. C'est-à-dire que, de fait, un homme est né dans cette société patriarcale, a été traité, perçu... Et puis, considéré comme un homme dans une société patriarcale, du coup, c'est compliqué de se rendre compte des privilèges qu'on a, c'est compliqué de se rendre compte du rôle qu'on joue dans cette société et dans ces violences et ces oppressions-là. Donc oui, la première étape, c'est de fait de prendre conscience de son rôle, même si de fait, nous, on n'a rien fait de violent, si on n'a pas été un agresseur, si on n'a pas violé ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on n'a pas été un agresseur qu'on ne fait pas partie et qu'on n'aide pas le système. Depuis tout à l'heure, on parle de violence masculine, on parle de masculinité toxique, mais il était important pour moi de préciser le fait que les hommes ne sont pas n'ont pas une violence inhérente à leur identité et que la violence masculine, elle est due surtout au système dans lequel on vit, pas que le système patriarcal, mais aussi le système capitaliste, la suprématie blanche, qui de fait élève les hommes et font vivre les hommes dans des conditions qui, de fait, créent la violence, parfois pour devoir s'en sortir. Donc le fait d'analyser la violence masculine uniquement sous le prisme patriarcal, sous le prisme masculin, c'est passer à côté de l'analyse systémique qu'il est nécessaire de faire dans ce type de situation.
J'aimerais qu'on parle aussi du consentement, parce que ça semble être un mot très difficile à comprendre pour plusieurs hommes.
Oui. De fait, en tant qu'homme, dans cette société androcentrée, donc vraiment centrée sur la masculinité, sur les hommes, sur les valeurs masculines, on nous apprend, dans la sociabilisation primaire, à ce que, globalement, le monde nous appartient. Mmh. Et comme le monde nous appartient, bah, les autres êtres humains aussi nous appartiennent. Ceux qu'on considère comme des sous-hommes et également les femmes. Et donc, mmh. du coup, c'est vrai que beaucoup d'hommes partent du principe que on leur doit quelque chose, on leur doit une sexualité, on leur doit... fidélité, on leur doit en tout cas des traitements de faveur, et donc du coup le consentement n'est pas forcément demandé automatiquement, parce que ce serait un dû et non pas quelque chose qui se partage, qui se demande.
Il y a le consentement, il y a aussi, on sait que non c'est non, mais parfois oui, ça peut devenir non, ça peut changer aussi, et ça aussi il faut en prendre compte.
Bien évidemment, le consentement, c'est pas un consentement, c'est pas comme un contrat qui vaut sur toute la période. L'idée, c'est de se réassurer du consentement de son ou de sa partenaire tout au long de l'acte, et qu'on parle de sexualité, mais on peut parler d'autres choses aussi. L'idée, c'est que s'assurer que son ou sa partenaire est consentant, consentante, peu importe ce qu'on fait, peu importe l'activité, et que ça n'est pas contraint, ou en tout cas qu'elle est dans un état suffisamment suffisamment conscient pour pouvoir prendre une décision en son âme et conscience.
Morgane, j'ai vraiment fait mes devoirs. J'ai lu cette feuille de route qui a été publiée. Alors, je vais t'amener sur trois autres points, parce qu'on en a nommé deux.
Bien sûr.
Il y a aussi prendre en charge ses émotions en tant qu'homme. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire ne pas rajouter au travail gratuit que font les femmes toute l'année, le travail domestique, le travail des enfants, le travail sexuel aussi, qui, rappelons-le, n'est pas payé, et en les prenant pour nos thérapeutes. Et arrêter de se reposer sur les femmes, et ça peut être nos compagnes, nos sœurs, nos mères, pour pouvoir réguler nos émotions, pour pouvoir gérer nos émotions.
Donc leur transférer notre charge mentale.
Exactement, ouais. Je pense qu'elles en ont suffisamment, et ouais. qu'il serait temps qu'on soit des grands garçons et qu'on la prenne en main nous-mêmes.
Troisième point donc, le quatrième, désapprendre les stéréotypes de genre.
Ouais. Ça, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué de faire se rendre compte à un poisson qu'il est dans l'eau, qui respire sous l'eau, parce que de fait, il est né comme ça. Et donc, on est dans une société qui, même si on est en 2025, enseigne encore énormément, d'une manière très binaire, d'être un homme ou d'être une femme. Et donc, on a tout un tas d'injonctions, tout un tas de directives, plus ou moins conscientes et plus ou moins explicites, qui, de fait, vont participer au maintien du système patriarcal, au maintien de la domination des hommes sur les femmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte des injonctions et de vraiment se poser la question de notre genre, qu'on soit une personne cis ou qu'on soit une personne trans, pour vraiment essayer de faire la distinction entre les injonctions, donc ce qui nous est imposé par la société, par nos familles, par l'école, par les médias, ce genre de choses, et nos véritables désirs, pour essayer de vraiment savoir quelle est notre véritable identité dans tout ça.
Tout à fait. Et le dernier point, mais non le moindre, écoutez. Écoutez nos sœurs.
on a tendance à couper la parole ou à partir du principe qu'on sait mieux que tout le monde.
Ah, le mansplaining.
Voilà.
On appelle ça, l'homme explication. On a un mot au Québec, puis ça ne me revient pas, mais quand ça me reviendra, je le dirai.
Je crois qu'il y avait m'explication.
M'explication, voilà, ouais. Merci, m'explication. Oui.
L'homme explication, effectivement, on a tendance à, même si on ne maîtrise pas un sujet, à partir du principe que comme on est un homme, de fait, on sait mieux que tout le monde. Et du coup...
J'arrive, mais c'est tellement pas drôle. C'est tellement pas drôle qu'on en rit, finalement.
C'est compliqué, parce que c'est le quotidien d'énormément de femmes, en fait, dont l'expertise est totalement éclipsée par un homme qui a une assurance, une certaine confiance en lui, et qui du coup, à cause de ça, on va l'écouter plus, parce que voilà, de fait, l'opinion des hommes est beaucoup plus encensée, beaucoup plus écoutée dans la société. Et donc, j'invite finalement les hommes, même ne serait-ce que pour comprendre leurs privilèges, à écouter les récits qui ne sont pas les leurs, plutôt que de présupposer, plutôt que de projeter, plutôt que d'inventer, plutôt que partir du principe qu'ils sont sachants et tout-puissants, de vraiment se poser et d'écouter, plutôt que de dire « non, moi, c'est pas comme ça, non, je sais que c'est autrement, non, moi, je suis pas un agresseur, non, là, en fait, je suis pas en train de te dire que tu es un agresseur, je suis en train de te dire que je me suis fait agresser. » Donc, en fait, ton avis et toi qui tu es, c'est pas vraiment le sujet. Donc, en fait, si on prenait juste un peu de recul, pour pouvoir écouter, simplement se nourrir de l'expérience de l'autre, pour pouvoir être ensuite en mesure de se faire sa propre opinion, mais partir du principe que notre opinion, puisqu'elle est masculine, vaut mieux que toutes les autres.
Alors, sans vouloir faire de outing, mais je t'ai vu au défilé, à la Marche des Fiertés. Je sais que tu as écrit un livre où tu parles beaucoup de nos communautés. Au Québec, on dit de ELGBTQIA+, pour les deux esprits, oui, pour les personnes autochtones. Ouais. Alors, en quoi ce que tu viens de me dire s'appliquerait, et comment, en fait, ça s'applique, mais comment ça s'applique à nos communautés?
Alors, j'ai reçu pas mal de critiques des hommes de nos communautés.
Tu m'étonnes, comme vous dites en France.
Parce que, en effet, comme la tribune, je l'ai écrit au « nous », mm-hmm. c'est-à-dire que je ne me suis pas exclu de ce groupe d'hommes, parce qu'effectivement, même si je suis un homme trans, je participe et je bénéficie aussi des privilèges masculins. Donc de fait, quand je dis nous, c'est parce que vraiment je m'inclus dans le panier, parce que je pars du principe, contrairement à cette phrase très célèbre, que oui, tous les hommes sont responsables, donc moi inclus. Et donc du coup, je faisais aussi mon autocritique en donnant des conseils à d'autres hommes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hommes de la communauté qui on fait la critique que subissant du sexisme en tant qu'homme bisexuel, homosexuel, en tant qu'homme trans, subissant aussi, en tout cas étant beaucoup plus à risque de subir des agressions sexistes et sexuelles, on n'accepte pas qu'on dise « nous » pour nous. On n'accepte pas d'être inclus dans ce « nous » violent, dans ce « nous » patriarcal, parce que nous aussi, on subit de la violence. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat dans nos communautés. À quel point on s'implique, à quel point on s'inclut dans la communauté des hommes, et à quel point finalement soit nos identités cisgenres, transgenres ou nos sexualités nous excluent un petit peu de cette typologie d'hommes qui serait de fait violente. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on existe en tant qu'homme dans la société, en effet on bénéficie de privilèges, en effet on bénéficie d'un statut plus élevé que la moyenne. Alors effectivement, on a la hiérarchie des masculins, et c'est important de la prendre en question. Et en effet, si on est un homme, si on est un homme gay, si on est un homme racisé, si on est un homme handicapé, on va pas avoir les mêmes privilèges, on va pas avoir les mêmes, les mêmes possibilités que des hommes cis, hétéro, valides, blancs. Maintenant, on fait quand même partie du système. Et si on refuse de voir qu'on fait partie du système, je trouve qu'on fait aussi partie du problème, parce que effectivement, être plus à risque d'être violenté, subir du sexisme, subir de la misogynie, subir des violences homophobes, ne nous garantit pas, ne nous immunise pas contre notre propre violence masculine. Donc c'est aussi important, je pense, de prendre ses responsabilités et d'assumer qu'on fait partie du problème. Alors peut-être moins que d'autres, mais en tout cas qu'on participe à maintenir cette société patriarcale.
J'aimerais terminer avec deux questions qui sont personnelles. Alors, libre à toi d'y répondre. La première, est-ce que le fait que tu es un homme trans, puisque tu viens de le dire, est-ce que ça te permet d'avoir cette vision, parce que tu as vécu dans l'autre corps auparavant, ou en fait dans le corps, dans l'autre identité auparavant, et tu vis dans cette identité-là, est-ce que ça te permet peut-être d'avoir un regard un peu plus éclairé sur la situation?
Alors oui, alors c'est un regard un peu plus éclairé, mais c'est pas un regard sachant.
D'accord.
C'est-à-dire que la tribune, effectivement, je l'ai écrit au nous, mais je l'ai écrit en mon nom. C'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce que j'ai écrit dans cette tribune-là, et c'est tout à fait OK. Maintenant, oui, en effet, comme l'explique le sociologue Emmanuel Bobatti, qui a écrit « Transfuge de sexe », au même titre qu'il y a des transfuges de classe, donc quand on parle de classe sociale, les personnes trans sont de fait des transfuges de sexe, parce qu'on passe d'une classe de sexe à une autre. Et donc, de fait, en tant qu'homme, on subit un surclassement. C'est-à-dire que, en tant qu'homme trans, de fait, on passe, entre guillemets, du bon côté de la barrière, en tout cas un peu plus en haut de la pyramide. Et donc, du coup, on est, de fait, plus écouté. On est mieux considéré, on est mieux traité dans la société. Alors, effectivement, il y a cette identité trans qui fait qu'on n'a pas tous les privilèges masculins. Néanmoins, on passe voilà, à un cran au-dessus, et nos sœurs trans, au contraire, subissent un déclassement social. Parce que, de fait, elles vont vers la féminité, et elles sont considérées comme des traîtres à leur genre, parce que quitter la masculinité, donc quitter finalement le premier sexe pour le deuxième sexe, comme le disait Simone de Beauvoir, bah, c'est un peu une trahison. Finalement, de changement de camp. Et donc, de fait, oui, bien évidemment, moi, j'ai remarqué en faisant ma transition, ça fait plus de 15 ans que j'ai fait ma transition, et bien évidemment qu'on m'écoute plus, qu'on me donne plus de crédit, qu'on me regarde autrement, qu'on me considère autrement, et puis surtout qu'on me donne la parole et qu'on m'écoute. Je pense que ça fait aussi partie de cette identité masculine-là, et que si j'étais une femme trans, on me tendrait beaucoup moins au micro, ouais.
Alors, c'était Morgan N. Lucas. Je crois que c'était vraiment une entrevue qui dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit présentement, qui a écrit donc ce livre. Ceci n'est pas un livre sur le genre qu'on peut retrouver là, qu'on peut commander en ligne, et qui a aussi été la personne qui a écrit donc ce papier qui est paru dans le journal Libération l'an dernier suite au procès dont Pellicot sur la masculinité toxique, signé par 200 personnes, 200 hommes connus là, en France. Donc, cette entrevue que je voulais diffuser lors de mon émission, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, mais présentement, cette émission n'est toujours pas retournée en ligne. Alors, je voulais pas qu'on perde cette entrevue fabuleuse avec cette personne absolument géniale. Alors, merci donc, Morgan N. Lucas.